Béni soit le Seigneur. Vous avez vu ce qu'on vient de chanter? Remettez juste le recoupé. Parle-moi, montre-moi, quelle est ta volonté, car je veux t'obéir. Est-ce que c'est vraiment votre prière? Bon, ceux qui n'ont pas dit amen, vous sortez. Est-ce que vraiment c'est votre prière? Montre-moi, Seigneur. Est-ce que c'est important? Pas la volonté d'une manière générale, mais quelque chose de précis. Alors ce soir, ça tombe bien, parce que je pense qu'il y a deux chrétiens. D'ailleurs, j'en ai parlé dimanche, Jésus parle des vierges folles, des vierges sages. Vous avez vu? Jésus parle des chrétiens de Laodicée, des gens qui vraiment gardent la parole. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Quand on voit les chrétiens, eux, j'ai dit de Laodicée? C'est de Philadelphie. Ceux de Laodicée n'ont pas gardé la parole. Ils sont restés à l'église, mais ils n'ont pas gardé la parole. À tel point que Jésus est dehors. Jésus parle de l'ivraie. Jésus parle du bon grain. On pourrait prendre tous les exemples qui nous montrent qu'il y a deux catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont là, ils ne savent pas trop. On leur pose la question, est-ce que vous êtes sauvés? Ils ne savent pas, oui, non. Vous savez que ça arrive, ça? Poser la question à des chrétiens, est-ce que tu es sûr de ton salut? Ben, je ne sais pas trop. Écoutez, un chrétien qui est sauvé, il le sait. Il le sait. Alors ce soir, on va voir un sujet que vous pourrez compléter vous-même. Alors on va lire l'introduction dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Paul demande quelque chose à Dieu, comme on vient de le chanter d'ailleurs. Comme on vient de le chanter. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. C'est un sujet qui me préoccupe depuis très 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 longtemps. Peut-être on le poursuivra plusieurs mardis, même si je reste dans mon étude sur les Corinthiens. Je veux être sensible au Saint-Esprit, parce que étudier mécaniquement un livre, c'est très 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 bien, mais parfois il y a des sujets qui répondent à certains besoins, et ça doit être le cas puisque j'ai ça à cœur. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. C'est beau de pouvoir dire ça. Hein, plein de confiance. Ça vous fait penser à quoi, plein de confiance? Allez. Plein d'assurance. Plein du Saint-Esprit, plein. Un vase qui est plein, il est plein. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui... Quand on est rempli du Saint-Esprit, eh bien, ça déborde. Il y a la confiance, il y a l'assurance, etc. Nous sommes toujours pleins de confiance. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. J'y tiens à le dire. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Verset 9, nous nous efforçons de lui être agréable. Voilà. Vous savez, les chrétiens, il dit aux Romains. Il dit de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il y a des choses qui sont bonnes. Quand on a le salut, quand on a obtenu le salut, quand on est passé par la croix, quand on s'est repenti et qu'on a embrayé une conversion, c'est bon, on est sauvé. Mais Dieu dit qu'il y a des choses agréables. Donc ce soir, nous allons voir comment devenir agréable à Dieu. Est-ce que vous avez le sentiment que vous devez faire des progrès? Ou est-ce que vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez plus faire de progrès? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en est là? Je pense qu'il n'y a personne. Personne, toute notre vie, nous aurons ce privilège de pouvoir faire des progrès. Nous nous efforçons de lui être agréable. Alors, ce texte, on pourrait regarder dans Éphésiens, un petit peu plus loin. C'est une expression qui revient souvent. Si vous avez une concordance, vous pourrez le vérifier. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Je vous encourage à noter ces versets pour les reprendre dans vos cultes personnels. Je ne sais pas si vous aimez faire votre culte personnel, mais c'est quelque chose de privilégié vraiment, d'avoir un culte personnel. Éphésiens chapitre 5, verset 10. Paul, qu'est-ce qu'il dit aux chrétiens? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous voyez, on peut l'examiner, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que c'est qui est agréable à Dieu? Qu'est-ce que c'est qui est agréable? Qu'est-ce que c'est qui ne lui plaît pas? Qu'est-ce que c'est qui est bien? On a vu que ce qui est bon, agréable, bien sûr, après c'est le top niveau qu'on abordera peut-être une autre fois, ce qui est parfait. Mais déjà c'est quand même bien d'arriver au stade d'être agréable à Dieu. On pourrait, oui, encore un peu plus loin, parce qu'il y a des versets. Je voudrais vous aider à prendre ce réflexe de vous-même de faire vos propres études bibliques. Colossiens chapitre 1, verset 10, vous avez besoin juste d'une concordance. Et comme tous vous avez Internet, vous pouvez tous même mettre sur votre écran une concordance biblique. Colossiens chapitre 1, verset 10. On va lire le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits, etc. Donc, voyez, il y a une marche, un comportement qui va nous amener, non pas à connaître ce qui est bon, mais à connaître ce qui est agréable. Beaucoup de chrétiens sont malheureux. Est-ce que vous le savez qu'il y a des chrétiens qui sont tristes? Pourtant, on a plein de chants qui expriment la joie. Alors, est-ce qu'il y a un temps pour pleurer? Bien sûr. Mais il faut bien faire la différence entre 5 minutes de cafard que l'on a, parce que bon, on réagit mal sentimentalement, mais on se ressaisit de suite, et puis le fait d'être continuellement affligé. Il y a des chrétiens qui sont tristes. Pour la simple et unique raison qu'ils ne se sont pas appliqués à connaître ce qui était agréable à Dieu. Jésus l'a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Des fois, les évangélistes disent, oui, venez à Jésus et vous serez heureux. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'ils devraient dire. Ils disent, venez à Jésus et vous serez sauvés. Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux. Ils sont sauvés, mais ils ne sont pas heureux pour la simple et unique raison qu'ils ne se sont pas appliqués à partager ce que l'on va partager ensemble. Et je crois réellement qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir dans son cœur cette assurance qu'on est agréable à Dieu. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est chouette? L'autre jour, j'ai pu témoigner à un monsieur, parce qu'on était, dans la rue, et il y avait une super grosse bagnole. Il me dit, vous aimeriez pas avoir cette voiture? Non, j'en ai pas besoin. Il me dit, moi j'ai mieux que ça. J'ai dit, vous savez. Ah bon? Ah, j'ai plus gros que ça. Ouais. Ah bon? Ouais. Moi j'ai la paix. Et ça m'a permis de lui. J'ai la paix et le pardon des péchés. Mais ça là, j'ai pu lui témoigner. Parce que quand on a la paix et le pardon, je crois qu'on connaît ce qui est bon. Il n'y a rien de plus beau que de connaître la paix et le pardon. Et de vivre dans la paix et dans le pardon. Parce que la paix, est-ce qu'on peut la perdre? Et le pardon, est-ce qu'on peut le perdre? Eh oui, on peut perdre. On peut perdre les grâces de Dieu. Quelqu'un qui ne vit pas, qui ne pardonne pas, eh bien, il ne vit plus dans le pardon. Si vous ne pardonnez pas vos offenses, qu'est-ce que Jésus dit? Je ne vous pardonnerai pas non plus les vôtres. Si vous ne pardonnez pas, vous connaissez tous les textes. Donc, la paix et le pardon, c'est merveilleux, c'est ce qui est bon. Mais mes frères et sœurs, il y a ce qui est agréable. Et cette idée de partager ce sujet m'est venue, je ne sais plus quand, c'était samedi, je crois, parce qu'il y a un texte de Zacharie, chapitre 4, où Dieu parle à Zacharie, donc, et il lui dit que le Seigneur se réjouira, écoutez bien, le Seigneur se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Vous savez ce que c'est un fil à plomb? Vous savez tout ce que c'est? Qui ne sait pas ce que c'est un fil à plomb? Non, voilà, mais je sais, les jeunes, ça ne m'étonne pas. Un fil à plomb, vous avez remarqué les maçons? Si vous avez remarqué, même quand il commence le premier bloc, c'est impressionnant. Le premier bloc, il a un fil à plomb et il regarde s'il monte droit. Un maçon, il a toujours son fil à plomb à la main. C'est comme ça. Même le premier bloc, il faut qu'il parte droit. Ça sert à vérifier si le mur part droit. Et Dieu dit, c'est Dieu qui le dit, qu'il se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Alors, c'est pas grand-chose un fil à plomb. Mais ça prouve que la personne, elle veut bâtir droit. Et c'est cette étude-là qui m'a montré qu'il n'y avait rien de plus beau que d'avoir dans son cœur cette approbation divine. Beaucoup de chrétiens, je vous dis, sont vraiment malheureux. Et que c'est triste de voir un chrétien, je parle, qui est toujours malheureux parce qu'il ne sait pas où il en est. Je le vois. Écoutez, je suis pasteur depuis 32 ans, bientôt 33, et je peux vous dire qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas où ils en sont. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas appliqués à faire ce qu'on vient de lire, examiner ce qui est agréable à Dieu. Alors, il faut qu'on prenne plusieurs textes. On va on a l'embarras du choix. Si vous avez une concordance, vous avez du travail. Mais il y a des déclics dans la vie. Alors on va prendre un homme d'abord pour commencer. Dans le livre de la Genèse, il nous est parlé d'un homme qui a été agréable à Dieu. Vous savez qui c'est? Qui c'est? Enoch. Enoch, c'est un homme qui a été agréable à Dieu. Genèse chapitre... Noé aussi l'a été, croyez-moi. Mais pour certains, c'est précisé. Genèse chapitre 5, au verset 21. Il y a la liste de ces hommes. C'est un peu triste parce qu'il est dit chaque fois, Enoch, etc. Paf, et il mourut, etc. Et il mourut. Pourquoi? Ben, ça nous rappelle qu'il va falloir passer par la mort. Mais quand on parle d'Enoch, Genèse chapitre 5, verset 21, Enoch, regardez bien, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Vous y êtes? Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Comment? Oui, c'est long. À l'époque, il se faisait plus vieux, vous voyez. Il mangeait bio. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Gardez ce texte, on va y revenir. Allons dans le livre des Hébreux et regardez ce qui nous est dit d'Enoch. Il fait partie des héros de la foi, des hommes et des femmes qu'il faut imiter. C'est important, mes frères et sœurs, que nous comprenions bien que ce sujet, il va vous permettre, si nous le vivons, bien sûr, parce qu'il ne faut pas l'entendre, il faut le vivre, d'avoir de l'assurance et une approbation intérieure. Il y a quelqu'un qui a envie d'avoir cette approbation intérieure? Vous savez, ça ce n'est pas du cinéma, ça. L'approbation intérieure, ou vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Ça, on peut faire semblant de l'avoir, mais ça ne dure pas longtemps. Hébreux 11, verset 5. Vous savez, remarquer, dans Hébreux au chapitre 11, il est parlé d'une ribambelle d'hommes et de femmes qui ont chacun un caractère de la foi. Pour Enoch, c'est la marche par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pas la croyance. Hein. Attention, ne confondez jamais la foi et la croyance. Ce n'est pas parce que vous croyez en Dieu que vous avez la foi. Il y a beaucoup de gens, même dans le mouvement de Pentecôte, il y a des chrétiens qui confondent ça. Croire en Dieu, ça ne veut rien dire. Les démons, est-ce qu'ils croient? Ça leur donne quoi de croire? Ils vont en faire quand même. Croire, ça ne veut rien dire. Il faut obéir à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors regardez bien quand même cette tendresse du Seigneur. Car il faut, c'est des impératifs, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est le minimum, non? Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Vous vous rendez compte, si Dieu avait dit, il faut que celui qui croit en Dieu, il fasse ceci, fasse cela. Non, Dieu, regardez bien cette bonté. Tout simplement, croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu déclare que cet homme, il a été agréable à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant 300 ans, il a marché avec lui. Si vous lisez les contextes du chapitre 4, 5 et 6, vous allez voir que marcher avec Dieu à cette époque-là, ce n'était pas facile, la terre était remplie de violence. Donc à 65 ans, on revient à Enoch, vous allez comprendre. À 65 ans, il prend la décision de marcher vraiment avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a eu à 65 ans? Qu'est-ce qu'il a eu à 65 ans? Qu'est-ce qu'il a eu? Un fils. Comment il l'a appelé? Methuselah. Vous savez ce que ça veut dire, Methuselah? À sa mort, il viendra. Et c'était de quoi que Dieu voulait parler? Du déluge. Enoch, à 65 ans, lorsqu'il a eu cet enfant, a compris que la colère de Dieu allait venir. C'est ça que ça veut dire. Attention, c'est sérieux cette affaire. Est-ce que nous savons que la colère de Dieu va venir? Bien sûr, nous le savons. Et comment que nous le savons? Nous le savons certainement encore mieux qu'Enoch. Donc, Enoch, sachant prophétiquement que quelque chose allait se passer, il a pris la décision de marcher avec Dieu. Ça a duré 300 ans, les circonstances étaient terribles, mauvaises, les gens étaient méchants et violents. Il a décidé de marcher avec Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que cet homme, il n'est même pas passé par la mort. Dieu l'a enlevé et il représente les chrétiens qui, parce que marchent, ils marcheront avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est là à l'église qu'on marche avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on chante des cantiques qu'on marche avec Dieu. Il y a des gens qui s'imaginent parce qu'ils se promènent avec la Bible qu'ils marchent avec Dieu. On marche avec Dieu quand on obéit à Dieu. Cet homme, il a 65 ans, il a décidé de marcher avec Dieu. Et ça y a plu à Dieu. Et il a dit, cet homme, il m'est agréable. Et mes frères et sœurs, on peut faire exactement la même expérience. Et croyez-moi, le royaume de Dieu changerait si tout d'un coup, les chrétiens se mettaient à faire, à vivre, pas le faire pour le faire, mais à vivre ce qui plaît à Dieu. Et ça, franchement, je sais très bien qu'il y a des études qui nécessitent un peu plus de travail, que des études nécessitent de l'inspiration et que ça c'est réservé aux pasteurs. Mais ce que je vais vous dire ce soir, chacun d'entre vous, vous pouvez le faire d'une manière individuelle. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on est agréable à Dieu? Alors on va lire quelques versets. Alors j'ai parlé de Enoch. Est-ce que vous pensez à des gens qui ont été agréables à Dieu dans la Bible, dont vous pourriez dire, tiens, cet homme, il a été agréable à Dieu. Cette femme, elle a été agréable à Dieu. Elle a fait ceci. Job. Vous connaissez Job, hein? Il a souffert, Job? Est-ce qu'il a vraiment souffert? Parce qu'il y a souffrance et grande souffrance. Est-ce qu'il a vraiment souffert, cet homme? Il a vraiment souffert. Et pourtant, c'est un homme qui n'a pas démordu. Et quand Dieu parle de lui, c'est pas un homme. Quand Dieu parle de lui, il dit, tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Et il explique après ce que c'est. C'est Dieu lui-même qui le dit. Il explique ce qu'est l'intégrité et la droiture. C'est quoi l'intégrité et la droiture? Voilà, c'est craindre. On le lit, on va le lire. Parce que c'est simple, mes frères et sœurs. Moi, je trouve que la Bible, elle s'explique toute seule. Des fois, les gens me disent, mais vous êtes sûr que c'est ça? Mais c'est la Bible qui le dit. L'intégrité, c'est quoi? Vous allez me dire, oui, est-ce que vous êtes sûr? Eh bien oui, je suis sûr. Et c'est clair. Regardez, c'est pour moi qui le dit. Job, chapitre 1er. Des fois, les gens, ils se disent, oui, mais vous avez dit ça, mais est-ce que c'est sûr? Ben oui, c'est Dieu qui le dit. Job, chapitre 1er. Verset 8. Si on prenait le temps de méditer un peu, je ne sais pas comment vous faites vos cultes personnels, mais des fois, moi, je lis qu'un verset. Des fois, je lis un livre en entier, des fois, deux livres, ça m'arrive. Et des fois, je lis qu'un verset et j'y reste le temps qu'il faut. Job, chapitre 1er, verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. » La suite, il est dit, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà ce que c'est l'intégrité et la droiture. Je crains Dieu et je me détourne du mal. Et cet homme, malgré les épreuves qu'il a traversées, a prouvé qu'il était agréable à Dieu. Et mes frères et sœurs, ce sont des versets comme ça que je vous encourage à méditer pour vraiment réaliser comment on devient agréable à Dieu. Parce que moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, en tant que chrétien, c'est important. Regardez, on continue. Je vous laisse ces versets. Je tiens à ce que vous les méditiez. Dans le livre des Actes, au chapitre 10, il y a une autre notion de cette... C'est la même pensée présentée différemment. Pierre parle de l'homme qui est agréable à Dieu. Actes, chapitre 10, versets 34 et 35. Actes chapitre 10, versets 34 et 35. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, regardez bien, en toute nation, et en Gaule aussi, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Alléluia. Il n'est pas beau ce verset? Partout sur la terre. Parce qu'on peut dire, oui, mais Dieu il nous aime à tous. Est-ce que Dieu nous aime tous? Est-ce qu'il nous aime tous pareil? Il nous aime tous pareil. D'accord? Dieu est amour? Dieu est amour. Vous êtes d'accord? Dieu aime tous les hommes, inconditionnellement. Vous êtes d'accord? Mais entre le fait que Dieu nous aime et qu'il y ait l'approbation de Dieu sur quelqu'un, c'est autre chose. Vous le comprenez? Est-ce que Dieu aimait Judas? Est-ce que Jésus aimait Judas? Est-ce que Jésus aimait Jean? Est-ce qu'il y avait une différence entre l'amour que Dieu avait pour Judas et l'amour que Jésus avait pour Jean? Est-ce qu'il est dit à trois reprises que Jean était le disciple que Jésus aimait? Ah. Le Seigneur, il a fait des préférences. Non, Jésus aimait Judas, Jésus aimait Jean, mais Jean avait une telle communion avec le Seigneur qui avait une affinité qui pouvait faire redire au Saint-Esprit que Jésus avait, que Jean était le disciple que Jésus aimait. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y avait une communion, on le voit dans la parole de Dieu, ces hommes, Abraham, Dieu connaissait Abraham. Est-ce que Dieu aimait Abraham? Est-ce que Dieu aimait Lot? Lot, est-ce qu'il le savait que le feu du ciel allait tomber sur Sodome? Est-ce qu'il le savait? Il ne le savait pas. Il l'a su la veille. Parce que tonton est arrivé pour le lui dire. Mais Abraham, il y a longtemps qu'il le savait. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Oui, Dieu est amour. Mais il peut y avoir une affinité entre un homme, une femme et Dieu qui va provoquer cette... qui va amener cette approbation intérieure. Et je vous dis, quand Dieu dit qu'il se réjouit, quand il voit le fil à plomb dans la main d'un de ses serviteurs, c'est exactement la même chose. Dieu voit si dans notre cœur, il y a ce souci d'être vraiment droit avec le Seigneur. C'est pas le fait d'aller à l'église qui est important, c'est le fait d'être un homme béni. Quand Dieu dit, quand l'ange Gabriel s'approche de Daniel, j'avais fait une étude, je crois, c'est il y a quelque temps de ça, ah, oui, je ne sais plus quand, il y a un an, sur homme bien-aimé. Quand Dieu dit, par la bouche de l'ange Gabriel à Daniel, tu es un bien-aimé. Et regardez la façon dont Daniel s'est comporté, alors que lui aussi, il était en difficulté, il avait été amené à Babylone, etc., en captivité, il a vécu des moments difficiles. Et il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Et vous avez vu comment ça a plu à Dieu? La Bible dit, Dieu lui fit trouver grâce. Il a résolu de ne pas se souiller avec les mets et le vin du roi, parce que c'était des viandes et des boissons qui étaient présentées aux idoles. Il lui a dit, non, je ne mangerai pas du vin, je ne mangerai pas de la viande qui a été présentée à des idoles. Moi, je mangerai les légumes voilà, qu'il y a dans le jardin de la cour. Et ça plaît à Dieu. Et Dieu voit cette intégrité. Dieu voit quand on cherche à lui être agréable. Dieu voit quand on veut cette approbation intérieure. Est-ce que c'est important pour vous? On cherche à lui être agréable, dit Paul, parce qu'il nous va falloir comparaître devant le Seigneur. Vous y pensez à ce moment? Je vous en parle souvent. Il va falloir que nous comparaissions tous devant notre Seigneur et que nous rendons compte à Dieu pour le bien ou le mal qu'on a fait. Je ne parle pas du salut, je parle des œuvres. Et il est certain que quelqu'un qui a cherché à lui être agréable, il s'applique, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je cherche, il faut que j'examine. Je ne lis pas la Bible pour lire la Bible. Bon, vous savez, mais ça me fait mal au cœur quand je vois certains chrétiens. Ceux qui sont capables de me dire, et pourtant ils ont lu la Bible plusieurs fois. Prenons un texte sur le culte, tiens, sur le culte. Comment vous le célébrez, vous, le culte? Hébreux chapitre 10, non, c'est pas 10, c'est 12. Hébreux chapitre 12, quel est le culte qui plaît à Dieu? Le culte qui plaît à Dieu. Hébreux chapitre 12, on va lire le verset 27. Parce que ce verset nous rappelle que le Seigneur, il nous éprouve, toujours. Hébreux chapitre 12, verset 27, les mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons, il faut le montrer, on l'a vu dimanche, que quand on prie Jésus, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il nous voit. Il nous entend, mais il voit quelles sont les dispositions de mon cœur. Si je prie, je prie. Vous me dites, monsieur, go prier. Moi, je prie, je vais prier. Mais qui c'est qui voit vraiment les dispositions? Il n'y a que Dieu qui voit. Dans quel état d'esprit je suis? Et là, c'est pareil. Montrons à Dieu. Vous voyez, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Alors, quel est le culte qui est agréable à Dieu? Celui qui est offert avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Tout à l'heure, je vous ai cité le verset de 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour, oui, mais Dieu aussi est un feu dévorant. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu saint. Et lorsque je viens dans la maison de Dieu, ou lorsque je fais mon culte personnel, je montre à Dieu. Combien dans mon cœur il y a ce souci, eh bien, d'avoir une vraie piété, une véritable crainte. Job avait la crainte. Il a dit, mais je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je ne porterai pas mes regards sur une vierge. Est-ce qu'il l'a dit ça, Job? Oui. Regardez les propos de Job dans sa souffrance. On voit qu'il se tient droit devant Dieu. Il dit, non, ça je ne le ferai pas. On le sait ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ou est-ce qu'il faut qu'on le dise? Je vous avais raconté une fois, il y a un gars qui m'appelle. Non, mais ça m'a fait pitié, vraiment. Il y a un gars qui m'appelle, il me dit, monsieur Gauche, j'ai une question. Un chrétien. Il n'était pas d'ici, il m'a fait, c'est pas grave, il était un chrétien. Il me dit, voilà, j'ai une question à vous poser, j'ai un dilemme dans mon cœur. Je sais qu'il ne faut pas regarder les films pornographiques, mais est-ce qu'on peut regarder les films érotiques? Et il dit, vous rigolez? Parce que vous voyez une différence, vous? Il me dit, oui, il y a quand même une petite différence. Enfin, il commence à m'expliquer. Et j'ai dit, mais vous êtes pas bien. Le gars, il cherchait une excuse pour essayer que je l'approuve. Mais il faut, pour en arriver là, déjà, il faut être tordu. Mes frères et sœurs, je crois que quand on a accepté Jésus-Christ, on sait ce qui est bien. Et on sait ce qui est mal. Si vous ne savez pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, laissez-moi vous dire que vous êtes dans de mauvais draps. Si vous n'êtes pas capable, mais c'est écrit ce matin, je lisais Jude, quand on voit ce que Jude dit, des gens qui sont deux fois morts, il parle des arbres deux fois morts, le Seigneur ne s'intéresse pas, laissez-moi vous dire, à un noyé au coin de là-bas, qui est mort ou pas mort. Les arbres deux fois morts, c'est des gens qui étaient morts et qui ont trouvé la vie et qui sont morts une deuxième fois, c'est-à-dire qui ont abandonné la foi et qui sont morts une fois de plus. Et la Bible dit que l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Et si vous faites partie de ces chrétiens qui ne sont pas capables de savoir si quelque chose est bien ou si quelque chose est mal, mais mettez-vous à genoux et demandez-lui pardon. Si vous dites, ah mais ça je peux le regarder, c'est pas grave, après tout le monde le regarde. Écoutez-moi, je crois qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On le sait. En tous les cas, si on ne fait pas ces choses, on ne sera pas agréable à Dieu. Quand on offre un culte à Dieu, on l'offre avec piété. On l'offre avec crainte. Un peu plus loin, un peu avant plutôt. Non, après, au chapitre 13, regardez, il recommence, il explique comment on offre à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, Hébreux 13, verset 15. C'est la même chose, parce que la présentation est la même chose. Regardez, par lui, donc par Jésus, offrons sans cesse à Dieu, c'est pas le dimanche matin ça, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres, qui confesse son nom. Un sacrifice de louange, c'est que je remercie Dieu. Je le remercie. Je le remercie sans cesse. C'est écrit, ça, rendez continuellement grâce à Dieu. Voilà, ça plaît à Dieu. Seigneur, tu vois, cette épreuve, elle ne me plaît pas, mais je te rends grâce pour cette épreuve. Voilà, ça plaît au Seigneur. Ça prouve que vous lui faites entièrement confiance. Qu'est-ce qu'il ajoute? N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Vous voyez d'un côté la louange qui monte vers Dieu, qui est vraie, mais vraiment vraie. Et de notre côté, le souci que l'on a de s'occuper de certains frères, de certaines sœurs qui sont dans le besoin, ce qu'on a fait par exemple cette semaine passée, on l'a régulièrement fait et on va encore le faire. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et mes frères et sœurs, c'est à la fois vertical, mais c'est en même temps horizontal. Je me préoccupe d'honorer Dieu, mais en même temps, je fais de mon mieux pour exercer la bienfaisance et la libéralité. Voilà. Ce sont des choses, ce n'est pas moi qui le dis. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc c'est bon, j'ai compris, je vais louer le Seigneur, je vais le louer, comme ça je vais faire partie de ces gens dont Jésus parle, que le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc j'adore Dieu et j'adore, Seigneur je t'adore, c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est une question ça. Vous connaissez ce verset dans Jean chapitre 4, lorsque la Samaritaine est en grande discussion avec le Seigneur, l'un il faut qu'il adore ici, l'autre il faut qu'il adore là, et puis Jésus dit non. L'heure vient où le Père recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. C'est un verset extrêmement sérieux. Ce n'est pas parce que j'adore Dieu que j'adore Dieu en conjuguant le verbe adorer, que je suis un adorateur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez mes mots? Si je vis dans le péché, je vis dans la duplicité, dans le mensonge, et que bien sûr je m'applique à prier, parce que je suis le pasteur, j'ai appris à m'exprimer, donc j'adore Dieu. Seigneur, je t'adore. Ensemble, Jésus, nous t'adorons. Est-ce que ça fait de nous des adorateurs? Est-ce que nous sommes des adorateurs parce qu'on conjugue le verbe adorer à la première personne du singulier ou à la première personne du pluriel? Je t'adore. Je répète ça en boucle 50 fois. Et à la sortie, vous pouvez dire, ah, monsieur Beau, c'est vraiment un adorateur, hein? Ah oui, parce que j'ai répété 20 fois le verbe adorer? Non, ce n'est pas le verbe adorer. La conjugaison du verbe qui fait de moi un adorateur. C'est l'obéissance. Et il y a des gens, mais mes frères et sœurs, c'est sérieux, parce que c'est un sujet qui revient souvent, très souvent dans la parole de Dieu, où Dieu dit, mais je hais vos sacrifices, je hais vos sacrifices d'action de grâce. Ah ? Mais Seigneur, c'est toi qui as créé les sacrifices d'action de grâce, c'est toi qui as créé la louange, c'est toi qui as institué l'adoration, et tu ne le supportes pas ? Pourquoi il ne supporte plus Dieu ? Ben, parce qu'il n'y a pas obéissance. On n'est pas agréable à Dieu parce qu'on chante des cantiques, on n'est pas agréable à Dieu parce qu'on va à l'église et qu'on prie, on est agréable à Dieu parce qu'on lui obéit. D'ailleurs, ces textes-là sur le fait que Dieu déteste ces choses, on pourra en lire deux ou trois, dans Amos. Mais mes frères et sœurs, c'est sérieux, parce qu'on a fait croire à des chrétiens qu'ils adoraient Dieu en esprit et en vérité, parce que par exemple, ils chantaient le cantique « Nous t'adorons en esprit et en vérité ». Vous connaissez, on a un beau cantique, là, « Nous t'adorons au Père dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité ». Est-ce que vous vous rendez compte de l'hypocrisie dans laquelle nous sommes si je chante un cantique comme ça et si en même temps je vis dans le péché? Vous voyez? Et je peux conjuguer le verbe adorer tant que je veux, ça ne changera rien du tout. Au contraire, Amos chapitre 5, verset 21. Moi je vous assure, ce sont des textes qui m'ont bouleversé. Parce que j'ai compris pourquoi certaines églises avaient la désapprobation de Dieu. Pourquoi Jésus était à l'extérieur quand il dit « Je me tiens à la porte ». Pourquoi le Seigneur est en dehors de certains cœurs. Regardez ce que Dieu dit par le prophète Amos. Amos chapitre 5, verset 21. Amos chapitre « Je hais, je méprise vos fêtes ». Je vous rappelle que c'est Dieu qui a institué tout ça. « Je ne puis sentir vos assemblées ». Qui c'est qui avait créé les assemblées? C'est Dieu. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, c'est Dieu encore. Je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, en plus c'était des beaux gras, ils étaient engraissés. C'était bien. Je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais, regardez bien, que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. Juste avant, on peut prendre Osée.
Osée au chapitre 8.
Osée chapitre 8, verset 13. C'est le même principe, et ça s'est souvent renouvelé. Et pourtant, ils obéissaient. En fait, quand vous alliez à Jérusalem, vous regardiez dans le parvis, vous disiez tous ces veaux qui étaient consacrés, tous ces agneaux qui étaient égorgés. Oh, quelle dévotion!
Et oui, c'est pas tout à fait comme ça que Dieu le voyait. Osée chapitre 8, verset 13. Ils m'immolent des victimes qu'ils m'offrent. Ils en mangent la chair, l'Éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant l'Éternel se souvient de leur iniquité, il punira leurs péchés, ils retourneront en Égypte, Israël a oublié celui qui l'a fait. Vous voyez, d'un côté, ils offraient des sacrifices, et de l'autre, ils avaient complètement oublié le Seigneur. Et on se demande comment c'est possible. Moi, je sais qu'un des versets qui m'a le plus frappé, je crois que c'est dans le livre des Rois, quand il est dit « ils aimaient l'Éternel, mais ils offraient des sacrifices aux Baal et aux Astartés. Ils aimaient l'Éternel et ils servaient les Astartés. » Quand vous lisez ça, vous dites « mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais combien cela peut se produire? On va à l'église, on chante des cantiques, on offre des sacrifices d'action de grâce, on offre notre dîme, etc., etc., mais on n'obéit pas. Et ça revient souvent. Regardez un petit pas avant, dans Ésaïe. Ésaïe. Vous savez, ce sont des textes sérieux, mes frères et sœurs. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont malheureux. Et moi, je voudrais que tous les chrétiens soient dans cette approbation divine. Vraiment, de s'endormir le soir avec cette approbation, de se réveiller le matin avec cette approbation. Ésaïe, chapitre 1er, verset 11. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe 1er, verset 11. Regardez bien, on va lire jusqu'au verset 19. C'est le même principe, mais ça vous montre combien Dieu est attristé, combien on peut attrister le Saint-Esprit. C'est écrit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Eh oui. Ésaïe chapitre 1er, verset 11. « Que m'importe la multitude de vos sacrifices ?» dit l'Éternel. « Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. » Regardez bien le verset qui suit. Quand vous multipliez les prières, vous avez vu ce que Dieu dit? Ça fait pas de la peine ça quand même? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Alors, la solution est liée. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve, venez et plaidons. Vous voyez, le Seigneur, en plus, on voit cette merveilleuse bénédiction. Il ne dit pas, mais je vous rejette, j'en ai assez. Venez et plaidons, ça veut dire, mais discutons, écoutez, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et voyez, des textes comme ça, il y en a plein dans l'Ancien Testament qui nous montrent que Dieu dit, non mais arrêtez, arrêtez de servir, de faire les choses, arrêtez de chanter pour chanter, mais mettez-vous à obéir. Mettez-vous à obéir. C'est ça, pratiquer la justice. Chaque fois, il est dit pratiquer la justice. On chante en boucle, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais la justice, c'est je fais ce que Dieu me demande. Je ne le fais pas, je le vis. Quand Saül, monsieur le roi, parce qu'il était devenu roi, tout d'un coup il s'est autorisé à faire ce qu'il voulait, et qu'il s'est dit, bon, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça, mais Dieu va le reprendre, alors qu'il va dire à Samuel, mais j'ai observé, j'ai obéi. Et Dieu va dire, mais où l'Éternel trouve-t-il du plaisir? Dans les sacrifices? Dans les offrandes? Ou dans l'obéissance à sa parole? Où trouve-t-il du plaisir? Et Saül ne comprend pas. Il est là, lui, il est obsédé par sa royauté. Il va absolument le voir. La suite, d'ailleurs, il va se fourvoyer à cause de son titre de roi. Il va absolument rester roi. David, lui, quand il s'est trompé, il s'en fiche de sa royauté. Lui, il dit juste, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est pour ça que Dieu va le relever. Et ce soir, si on est vrai, on doit dire, je ne sais pas, mon titre de chrétien, ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Moi, je me souviens, vous savez, une fois, j'étais à une pastorale, il y a longtemps de ça, j'étais au début à Groyer, et pendant la pastorale, c'était que des pasteurs, on était trop 400 pasteurs, et le pasteur, il avait dit, voilà, si vous ne vous occupez pas de votre femme, vous êtes un mauvais pasteur. Et moi, ça m'avait travaillé. Ça m'avait travaillé parce que je pensais qu'à l'église, et j'en négligeais ma femme. Et si quelqu'un veut, a besoin de la grâce de Dieu, qu'il se lève et qu'il vienne sur le devant. Je me rappelle, je me suis levé, j'ai presque été en courant. Et ce que les autres pensaient, mais ça m'était égal. Moi, je voulais régler ce problème. Et Dieu m'a aidé. Même si j'ai peut-être pas fait les progrès qu'elle aurait voulu, mais quand même, j'en ai fait. Parce que je voulais régler ce problème et le Seigneur, il m'a aidé. Et quand le Seigneur parle, il le dit, vous voyez, quand il parle, mais regardez, quand Jésus dit, mais il leur donnera une autre parabole. Il leur montrera une autre parabole. On va la lire, il vaut mieux, Luc 18. Il vaut mieux le lire, comme ça je n'oublierai pas un mot. Mais regardez bien, mes frères et sœurs. Quand Jésus parle d'une manière sévère, ce n'est pas pour nous blesser, c'est pour prendre une victoire. Le sujet, il est sérieux. Qui veut être agréable à Dieu? Qui veut avoir dans son esprit cette approbation intérieure? Luc 18, verset 9. Vous voyez, c'est ça. On va se dire, mais non, c'est pas pour nous, c'est pour les hypocrites. Ben, regardez. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous voyez, on peut se persuader qu'on est juste. Je vais à l'église, je chante, je connais les cantiques. D'ailleurs, je connais par cœur les cantiques. Je dois être un bon chrétien. J'en connais plein par cœur, je connais plein de versets par cœur. Je dois être un bon pasteur. Ah ouais. Je prends la Sainte Cène, je ne manque pas les cultes. Ouais, je suis juste. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même, « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou ravisseurs, ou même comme ce publicain. » Vous voyez, quand on commence à se comparer aux autres, ce n'est pas bon signe. « Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien de jeûner deux fois par semaine? Est-ce que c'est bien de donner la dîme de tous ses revenus? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu demande? Oui. Mais on peut faire les choses, et parce qu'on fait les choses, s'imaginer qu'on est juste, mais ne pas obéir à Dieu. C'est ce que Saül a fait. C'est pour ça que Dieu va lui dire, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie. C'est un verset qui m'a ébranlé, ce verset. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Alors mes frères et sœurs, voyez, ce qui est important, ce n'est pas de faire les choses, c'est de pratiquer la justice, c'est d'obéir à Dieu. Pratiquer la justice, voilà, Dieu me demande d'aimer mon prochain, eh bien je l'aime. J'ai du mal à aimer, ce n'est pas facile. Eh bien Seigneur, je te demande de m'aider, de me donner de l'amour pour mon prochain. Est-ce que Dieu va vous aider? Ben oui, il va vous aider. C'est facile d'aimer, franchement. Non, ce n'est pas facile. Seigneur, je me resterai à genoux le temps qu'il faut. Moi je sais, je l'ai déjà fait. Rester à genoux une heure, deux heures. Seigneur, tu me donnes la grâce d'y arriver. Eh bien, Dieu m'a aidé. Persévérer. C'est pas écrit. Imiter ceux qui, par la persévérance, obtiennent les promesses. Est-ce que c'est écrit? C'est ça, être agréable à Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une victoire. Je vais la prendre. Vous voyez? Et il y a plein de textes comme ça, où l'on voit bien que les hommes font les choses sans obéir. On est dans Luc, regardez dans Matthieu 23. Mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. Parce que moi, je voudrais tellement que nous, les chrétiens, nous ayons cette approbation. Vous vous rendez compte, quand vous priez, vous avez vu ce que Dieu dit? Quand tu multiplies les prières, je n'écoute pas. Vous avez envie que quand vous passerez devant Dieu, sérieusement, il y a quelqu'un ici qui a envie d'entendre, quand vous allez passer devant Dieu, d'attendre d'entendre le dernier jour, enfin le dernier jour, oui, le premier moment de votre éternité, tu sais, au fait, quand tu priais, ça ne servait à rien. Vous avez envie d'entendre ça? Sérieusement, vous aimeriez entendre ça? Au fait, tu sais, tu as prié pendant 25 ans, mais au fait, tu priais pour rien. Ah. Mais moi, je crois que si on était honnête, le Seigneur peut nous le montrer avant. Vous croyez que Dieu peut nous le montrer avant? Dans un moment de communion, comme ce soir, et de dire, Seigneur, mais c'est vrai, tu condamnes l'hypocrisie, le légalisme, ou le libéralisme, tout ce que vous voulez. Dieu bénit l'obéissance. Regardez Matthieu 23, on pourrait prendre des textes, franchement, on en a jusqu'à 6 heures du matin. Je ne sais pas ceux qui vont rester jusqu'à cette heure-là. Matthieu 23, verset 23, il parle à des pasteurs. En plus, là, il parle à des gens qui, comme moi, sont censés, eh bien, prouver leur authenticité. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous. J'aurais aimé voir leur tête, vraiment. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anise et du cumin. Est-ce que c'était bien, tiens, là, cette fois-ci, on est dans les petits trucs. Le cumin. Vous avez du persil dans le jardin? Un pot de ciboulette, vous en avez? C'est des petites quantités, toujours. Hein. Et eux, ils étaient tellement soucieux d'obéir, ils allaient dans le jardin, ils prenaient leurs pieds de menthe, un dixième, clac, 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 clac. Ils coupaient un dixième, ils faisaient un petit fagot dans le panier. La dîme de la menthe, la dîme du cumin, la dîme de la ciboulette. Et tout ça, que ça soit bien clair. C'était bien. D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, mais, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice. Vous voyez la justice? La miséricorde et la fidélité. Il dit, mais c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Il faut le faire, la dîme de la menthe, la dîme du cumin, tout ça. Il faut le faire, les petites, être fidèle dans les petites choses. Bien sûr qu'il faut le faire. Jésus dit, c'est là ce qu'il faut faire, sans négliger les autres choses. Et ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est la justice. La justice, c'est pas la cuirasse de la justice qu'on a vue l'autre jour. Vous étiez là, je dis, vous avez vu le beau jeune homme là qui portait une cuirasse? Vous n'avez pas vu ce bel homme là qui était sur l'estrade? Non, vous ne l'avez pas vu? Vous n'étiez pas là ce dimanche après-midi? Il y avait un beau jeune homme qui portait une cuirasse, qui représentait l'image de la justification. Je suis justifié, mon cœur, c'est l'image du cœur qui est protégé par la cuirasse de la justice. On peut essayer de me taper le cœur, non, je ne serai pas atteint, parce que je suis protégé. Mais je l'ai déjà dit, il y a un gouffre entre la justification et la pratique de la justice. La pratique de la justice, c'est que j'obéis. Détourne-toi du mal, je me détourne du mal. C'est comme ça qu'on a de l'approbation. Et je voudrais multiplier les exemples parce que c'est un sujet qui est énormément développé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Mais mes frères et sœurs, c'est bien d'être sauvé. C'est bien d'avoir la paix et le pardon. C'est déjà l'apothéose. C'est immense d'avoir la paix et le pardon des péchés. Mais franchement, en plus, vous avez quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire cette approbation intérieure. J'obéis à Dieu, je me détourne du mal. Mais quand je vois aujourd'hui tout ce qu'on peut avoir de mauvais, c'est vrai ou non? Mais est-ce qu'on peut avoir... Moi, quand je regarde la télévision, je peux vous dire que j'ai toujours la télécommande à la main. Toujours. Parce que ça va vite. Oui ou non? Et je crois que... Si on a la crainte de Dieu, je peux vous dire qu'on va être rapide pour zapper, on va avoir un pouce costaud. C'est vrai, c'est pas vrai, quelqu'un qui aime Dieu, est-ce qu'il se détourne du mal? Eh ouais. Si vous n'aimez pas Dieu, vous ne vous détournez pas du mal. Il vous faut l'entendre, ça vous fait pas plaisir, ça vous dérange, je suis d'accord. Mais Jésus est catégorique, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oui ou non? Si vous n'arrivez pas à vous détourner du mal, vous croyez en Dieu, vous aimeriez l'aimer, mais ce n'est pas vrai. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Enoch, il a marché avec Dieu 300 ans. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas facile. Mais il a décidé, parce qu'il savait que le déluge allait venir, et il n'avait pas envie de prendre ça. Il savait, il fallait absolument éviter la colère de Dieu. Vous voulez éviter la colère de Dieu? Eh bien, si nous voulons éviter la colère de Dieu, mes frères et sœurs, marchons dans la sainteté et joyeusement. Parce qu'il y a des gens, quand vous leur parlez de sainteté, « Ah, oh, il faut obéir, ouais. faut marcher dans la sainteté, c'est pas marrant. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, moi je crois que tout ce que Dieu nous demande, c'est une grâce. Oui ou non? Ah, je peux pas faire ça. Ah, je peux pas coucher avec une femme. Ah, je suis pas marié, oui. Je peux pas avoir des relations sexuelles avec une jeune fille. J'ai entendu ça. Ah, c'est pas marrant, hein? Ah, je peux pas fumer. Je peux pas mentir. Une fois, on me l'a dit. Je me rappelle. Tu peux pas mentir, t'es chrétien. Si, je dis, je peux mentir. Est-ce qu'on peut mentir? Mais je veux pas mentir. Je peux. Le gars, il me disait, ouais, tu peux pas. Non, si, je peux. Mais c'est une grâce de marcher dans la vérité. Et quand on commence à penser que les commandements de Dieu sont des contraintes et des corvées, je pense qu'on est sur une mauvaise voie. Ce que Dieu nous demande, c'est une bénédiction. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu regarde. Il a vu Job, il a vu Enoch. On pourrait prendre l'exemple. Mais vous savez, moi je sais par exemple que je suis sauvé. Je le sais. Mais moi je n'ai pas envie que d'être sauvé. J'ai envie d'avoir l'approbation de Dieu dans mon ministère. Alléluia. Voilà, de me lever, je me couche et je m'endors en paix. Quand je me lèverai, mon pied sera dans l'assurance. Il y a des textes comme ça qui en parlent. Dès le matin, je me rassasierai de ton image. Quelqu'un qui marche dans cette approbation et puis il en bénédiction aux autres. On en a parlé des palmiers qui font des grosses dates. Ce n'est pas pour le palmier. Le palmier, il fait des dates pour rafraîchir les gens. Est-ce que vous avez envie de rafraîchir les autres? Et voilà. Alors, on poursuivra peut-être ce sujet. Mais mes frères et sœurs, rappelez-vous cette parole que Dieu regarde Zorobabel et dit « Je me réjouis en voyant cet homme parce qu'il a pris le niveau. » Voilà, bien sûr que quelqu'un qui ne connaît pas, il ne comprend pas. Mais peut-être que ce soir, vous pouvez dire « Moi, je vais sortir et j'aurai le niveau. » C'est-à-dire que la parole, ça va marcher droit. Je vais aller avec joie. C'est ça que j'ai vu. Je marcherai droit. Ça, c'est pas bien. Je ne sais pas. Ça, c'est pas bon. Je ne regarde pas. Voilà. C'est comme ça. Et vous aurez de l'assurance. Et plus vous aurez de l'assurance, et plus vous aurez cette approbation divine. On ferme les yeux quelques instants. Demandons-lui au Seigneur de nous aider. En plus, il ne faut pas qu'on soit un obstacle dans l'Église. Il y a des chrétiens, ils sont un obstacle. Je ne parle pas des pécheurs. Les gens qui découvrent l'Évangile, ils sont dans le péché, c'est normal. Mais je parle des chrétiens qui sont un obstacle à la bénédiction. Ils vivent dans le péché et ils attristent le Saint-Esprit dans l'Église. Donc tout cela contribue au réveil et à la faveur de Dieu. Voilà, prions le Seigneur quelques instants. Seigneur, tu nous vois. Tu nous entends, c'est vrai, mais tu vois notre cœur. Tu vois les intentions de notre cœur. Nous le croyons, Seigneur, que tout ce que tu nous demandes est bon pour nous. Tout. Et je te prie de délivrer tous ceux qui sont liés par ces mauvaises pensées. Tu vois, Seigneur, dans l'Église, ceux qui comprennent les commandements comme des contraintes, délivre-les, Seigneur. Délivre-les tous ceux qui sont frustrés parce qu'ils aimeraient faire et qu'ils ne peuvent pas faire parce que tu l'interdis alors que c'est une bénédiction. Seigneur, délivre-les, délivre, Seigneur. Oui, comme tu t'es réjoui en voyant Enoch, en voyant Noé, en voyant Job, etc., tous ces hommes qui avaient choisi de prendre le niveau, de prendre le fil à plomb. Ce soir, qu'il en soit ainsi dans ce lieu. Que nous ayons la grâce de prendre ta parole comme un fil à plomb pour que tout ce que nous construirons soit construit dans la droiture et l'intégrité. Que nous construisions avec droiture, Seigneur. Tu vois ceux qui se débattent avec le péché, délivre-les, Seigneur. Oui, tu es un Dieu de délivrance. Tu es venu non pas pour juger, non pas pour condamner, même quand tu parlais sévèrement, tu n'es pas venu pour condamner, tu es venu pour délivrer, pour guérir les malades, pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles. Seigneur, que ta parole ait ce pouvoir dans nos vies, d'ouvrir nos yeux, d'illuminer les yeux de notre cœur, afin que nous ayons cette espérance qui s'attache à l'appel, afin que nous découvrions tous cette approbation divine qui ne peut que nous rendre heureux et prêts comme Enoch était debout lorsque tu es venu le prendre. Mon Dieu, accorde-nous cette grâce d'être prêt pour ce grand moment où tu vas revenir nous chercher. Garde-nous, Seigneur, comme Enoch a réalisé que bien le déluge allait venir. Nous savons que ta colère va venir. Et nous voulons être droits, non seulement connaître ce qui est bon, mais nous appliquer à découvrir et examiner ce qui t'est agréable. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.